Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Luc au chapitre 6. On poursuit notre étude de cet évangile que Luc a écrit. Et nous allons lire ce matin les 16 premiers versets. Donc Luc 6, et je lis à partir du verset 1. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans les mains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens, comment il entra dans la maison de Dieu ?» Prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ses gens, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Il arriva un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de trouver un motif de l'accuser. Mais il connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là, au milieu. » Et il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la perdre ?» Alors, prenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main devint saine. Rempli de fureur, ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Dans un questionnaire, une fois qui a été fait sur la manière dont nos contemporains comprennent ou perçoivent qui est Jésus-Christ, à part pour les croyants, la manière de décrire Jésus était « c'est un philosophe ». C'est quelqu'un qui veut conduire les hommes dans une manière sage, belle de vivre. Ou alors, c'est un sage qui est venu pour transformer les relations, pour aider les personnes à s'aimer les uns les autres. Pourtant, quand on lit ces récits, on voit que ce n'est pas si simple que ça, n'est-ce pas ? Jésus, nous dit dans ses récits, n'était pas simplement un philosophe ou un sage, mais on voit qu'il suscite la colère. Les récits parallèles en Matthieu et Marc, en fait, nous disent même, non seulement ils étaient en fureur contre lui, mais en fait, ils décidaient, ils réfléchissaient comment se débarrasser de lui, comment le mettre à mort. Jésus entraîne de la division. Il vient nous bousculer dans notre compréhension de Dieu, et au final, je passe, il nous délivre, il vient nous délivrer de notre religiosité pour nous conduire dans une relation vivante avec Dieu. Jésus ici vient nous délivrer de notre religiosité pour nous conduire dans une relation vivante avec Dieu. C'est ce que je vous propose de retenir pour ce texte et on va reprendre quelques éléments pour mettre cela en avant. Première observation sur notre texte que je vous propose. Au chapitre 6, alors que Jésus est tranquillement en route avec ses disciples un jour de sabbat, il est dans les champs et ses disciples prennent des épis. Et ce qui est assez étonnant, c'est que, au verset 2, quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ça ?» Tout d'un coup, on a des pharisiens qui apparaissent alors que Jésus est en train de se balader dans les champs avec ses disciples. Et on se dit « Mais ils viennent d'où ceux-là ? D'où c'est qu'ils sont arrivés ?» Et en fait, Luc ne nous dit rien, d'où c'est qu'ils ont débarqué? Est-ce qu'ils étaient en train de suivre Jésus-Christ, en train de l'épier pour voir un peu sa manière de vivre? C'est assez possible. Ou alors on leur a rapporté, et dès qu'on leur a rapporté cela, ce que Jésus a fait avec ses disciples, ils sont allés le voir pour s'en prendre à lui. Donc quelque part, Jésus est épié. Les gens sont aux aguets et on cherche à lui porter atteinte. Et cela est clairement confirmé par le deuxième récit, au verset 7, où il nous est dit qu'ils observaient Jésus afin de trouver un motif pour l'accuser. Donc, il y a toute une partie de personnes qui suivent Jésus-Christ, non pas parce qu'on l'aime, non pas parce qu'on trouve qu'il est intéressant, qu'il a des choses intéressantes à nous amener, mais parce qu'on veut lui faire du tort, parce qu'on veut lui faire du mal. Et c'est notamment sur sa piété qu'on cherche à le reprendre, sur sa manière de vivre sa religiosité, sa relation avec Dieu. Et ça, c'est notre deuxième observation. Jésus est remis en question sur sa piété. Et ce sont notamment les récits précédents qui nous montrent en fait qu'on a une montée en puissance de l'opposition contre Jésus-Christ. Une montée en puissance contre sa manière de vivre sa relation avec Dieu. Au chapitre 5, versets 20 et 21, voilà ce que nous lisons. Voyant leur foi, Jésus dit à ces hommes, donc quand il y a les amis qui amènent un paralytique devant eux, devant Jésus, Jésus leur dit, pardon, dit aux paralytiques, « Tes péchés sont pardonnés. » Et les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Donc pour eux là, Jésus vient de commettre un acte irréparable. Il vient de se prendre pour Dieu. Et à partir de ce moment-là, il y a une tension qui apparaît. Il y a eu un mauvais départ pour eux en Jésus-Christ. Et on le voit au chapitre 5, toujours verset 30. « Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous » Alors, ils sont gentils, hein, ils disent aux disciples. Ils ne veulent pas le dire directement à Jésus-Christ. Mais s'ils le disent aux disciples, c'est qui le responsable ? Forcément, c'est le maître, c'est Jésus-Christ. Hein. « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des péagers et des pécheurs ?» Donc quelque part, Jésus est remis en question ici parce qu'il s'associe, et c'est vrai que le fait de, je pense que c'est Henri, je suis désolé, je n'ai pas entendu la prédication la semaine dernière, je ne veux pas la reprendre, mais là, le repas veut dire qu'on est d'accord, d'accord, avec ce que l'autre personne fait. Et si Jésus mange avec des péagers, qui sont des traîtres, parce qu'ils servent les Romains, et avec des pécheurs, donc avec des impurs, ça veut dire que Jésus est d'accord avec leur manière de vivre. Donc ici, on remet en question Jésus sur son rapport à la pureté, sur son rapport à l'adoration. Et ça se poursuit au chapitre 33, chapitre 5, verset 33. Ils leur dirent, donc toujours les pharisiens, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment, ils font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Attends, tu pardonnes les péchés ? Tu manges avec des impurs et vous ne jeûnez pas, vous ne respectez pas la piété juive. Donc Jésus est ici constamment remis en question. Il fait tout de travers pour le bon juif de l'époque. Et ici, ça continue, il va encore un pas plus loin, Jésus, et ces deux récits sont quand ? Le jour du sabbat. Jésus ne respecte pas le sabbat. C'est quoi le sabbat ? C'est le samedi pour nous ? Le jour saint des Juifs, où en fait on arrêtait toute activité, on ne travaillait plus pour se rappeler qui est notre Dieu. C'était un jour à part où on avait notre culte pour célébrer notre Dieu. Et la prescription c'est « on ne travaille pas ». Mais en voyant les disciples prendre des épis et froisser ces épis dans leurs mains pour les manger, les pharisiens disent « vous êtes en train de travailler ?» Vous êtes en train de casser, de désacraliser ici le sabbat. Et de même, on n'avait pas le droit de guérir le jour du sabbat. Sauf si quelqu'un est vraiment en extrême limite, il va mourir, alors on peut faire quelque chose. Mais si il peut attendre demain, il est mal, mais pas extrême limite, on attend le lendemain pour le guérir. Et ici, en guérissant, Jésus est en train de travailler. Donc Jésus pourrait en train de casser le sabbat. Donc, en se prenant pour Dieu, en s'associant aux impurs, En ne jeûnant pas, en ne priant pas, en ne respectant pas le sabbat parce qu'il travaille, Jésus est en train de tout casser la piété juive. Il est en train de tout remettre en question. Et pour eux, là, la tension monte. Comment quelqu'un qui se dit rabbi et qui, en plus, suivi par des personnes, peut être un bon juif? Donc Jésus est complètement remis en question ici, dans ces passages, sur sa religiosité, sur sa piété. Il est désavoué, et il devient un danger pour les Juifs. Donc, tant de tensions. Troisième observation qu'on peut faire, c'est la manière dont Jésus explique ce qu'il fait, et donc il explique au final la signification, le sens du sabbat. Et quand on le reprend sur le fait de manger des épis, sa réponse est assez bizarre, n'est-ce pas? Surtout que grâce à la loi, il aurait pu répondre beaucoup plus simplement. Voilà ce qu'il aurait pu dire. Hop là, pardon. Vous n'avez pas lu ce qu'il y a écrit dans le Deutéronome? Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu ne manieras pas la faucille sur les blés de ton prochain. Et voilà, c'est résolu. Alors c'est clair que ce texte ne parle pas du sabbat, n'est-ce pas? Mais il est en train de dire, en fait, quand on se balade, on peut prendre, on peut cuire pour manger. Mais on ne manie pas la faucille parce que si on le fait, en fait, on est en train de travailler. On ne va pas aller dans le champ des voisins pour prendre des choses, pour récolter. Parce que ça, c'est du travail. Mais on peut juste se nourrir, ce qui était autorisé le jour du sabbat. Donc, ici, c'est ça, voilà, c'est fini, affaire résolue, prochaine plainte. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus répond ici. En fait, il les confronte à un autre récit de l'Ancien Testament où quelque chose aussi d'interdit avait été fait. Et cette chose interdite a été faite par le grand roi David. En fait, il n'était pas encore roi, mais par celui qui a été devenir le grand roi David, le grand héros du peuple dont on attend à ce moment-là le descendant pour délivrer le peuple de l'occupation romaine. Et David était allé trouver le sacrificateur parce qu'il avait été... Il était poursuivi par Saül. Il était en danger de mort. Saül voulait le mettre à mort. Et il avait tellement dû fuir rapidement qu'il n'avait ni pris armement, ni pris de quoi se nourrir. Et donc, il n'a rien du tout. Et le seul endroit où il sait qu'il aura un peu de soutien, c'est auprès des sacrificateurs, auprès du tabernacle. Alors, il demande à manger au sacrificateur. Et le sacrificateur dit, ah, j'ai rien. J'ai rien du tout. Tu es mal, mon ami. Il dit, ah non, j'ai une chose, mais une chose que tu n'as pas le droit. Ce sont les pains. Vous savez, ces pains, il y avait dans le tabernacle, il y avait une table avec, sur laquelle on posait 12 pains, chaque pain représentant une nation. Donc Dieu qui invite chaque tribu du peuple d'Israël dans sa présence. Et il devait être changé régulièrement et seuls les sacrificateurs pouvaient manger ces pains-là. Et donc, manger ces pains, c'était profaner Dieu, profaner les rites, profaner la piété. Mais le sacrificateur a dit à David, bah, tu es tellement en besoin que ta vie compte et tu peux manger. Et il ne se pose pas la question, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Tu es en besoin. Il a vu le caractère exceptionnel et urgent de la situation. Et Jésus fait la remarque suivante aux pharisiens, n'avez-vous pas lu? Vous les spécialistes, vous n'avez pas lu? Vous n'avez pas encore compris? Vous n'avez pas réfléchi à ce qui est écrit? Les règles du sabbat, les règles du culte n'ont pas pour finalité le sabbat, mais la finalité est ailleurs. Pour vous qui avez des enfants ou qui avez été enfants, donc à peu près tout le monde, vous vous souvenez que nos parents, et on a dit la même chose à nos parents, à nos enfants, de ne pas jouer avec le feu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? Pourquoi on dit ça aux enfants? C'est parce que, en tant que parents, on veut détenir le pouvoir et être maître du feu? Ou alors c'est parce qu'on veut être tranquille et maintenir notre tranquillité absolue dans la maison? C'est quoi le but de ces règles? C'est pas le feu en lui-même. Le but des règles, c'est quoi? C'est protéger leurs enfants. C'est le bien de l'enfant que les parents aiment. les parents mettent des règles, non pas pour le plaisir des règles, mais pour le bien de l'enfant. Et de la même manière, le sabbat et les règles du culte sont faites non pas pour le sabbat, mais parce que la finalité, c'est de conduire l'homme vers Dieu, parce que Dieu aime et recherche les hommes. Et Jésus, ici, alors, en profite pour glisser une bombe. Verset 5, il leur dit, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Il est en train de leur dire quoi, Jésus, ici? Ouais, et les amis, « Je suis Dieu. » C'est qui a institué le sabbat? C'est Dieu, lors de la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Donc c'est Yahvé, l'Éternel, qui est le maître du sabbat. Et quand Jésus leur dit « Je suis le maître du sabbat », il est en train de leur dire « Je suis Yahvé, l'Éternel, le Dieu qui a sorti le peuple d'Égypte. » Et ce Dieu-là a donné ses règles pour attirer l'homme à lui, parce qu'il les a attirés vers lui, parce qu'il les a justement libérés et pour leur permettre de continuer à vivre l'intimité, continuer à vivre la liberté qu'il leur a offert. Et Jésus poursuit ici cette même orientation, réorientation, explication de ce que c'est le sabbat avec le deuxième récit quand ils veulent le guetter dans le but de l'accuser. Encore une fois, les pharisiens sont à l'affût. Ils n'ont pas accepté ce que Jésus-Christ a dit, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas voulu recevoir que Jésus est le maître du sabbat. Alors, ils cherchent à l'accuser. Et Jésus leur dit cette question alors, quand il sait qu'ils veulent l'accuser. Verset 9, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal ? De sauver une personne ou de la perdre ?» C'est chaud comme question, hein ? Parce que c'est clair qu'ils ne peuvent pas dire « Ah ben, on a le droit de faire du mal » ou « Il est donné pour perdre ». Ça, c'est clair qu'on ne peut pas répondre ça. Les pharisiens ne peuvent pas répondre cela. Mais dans leur système, ils ne peuvent pas non plus répondre que c'est pour faire du bien. Parce qu'ils ont leurs limites, ils ont leurs règles. C'est seulement en cas d'extrême limite qu'on va intervenir et qu'on va guérir. Mais sinon, on se retient de faire du bien. Mais s'ils répondent à Jésus, c'est pour sauver, c'est pour faire du bien, ils sont en train de dire, vas-y, guéris-le. Mais ils ne peuvent pas. Parce que dans leur système, on n'a pas le droit, on ne peut pas travailler. Et le problème, c'est qu'encore une fois, le sabbat est devenu le but et l'homme n'est qu'un moyen. Alors que Jésus a donné ses règles parce que l'homme est le but et le sabbat est le moyen pour instruire l'homme, pour conduire l'homme vers Dieu, le conduire dans une intimité, dans une relation. Mais ici, encore une fois, le sabbat a été détourné de sa fonction par la religiosité. La religiosité est venue ici séparer l'homme de son Dieu, plutôt que de conduire l'homme vers son Dieu. Le sabbat est simplement devenu une question de droit ou de non-droit, et pas une question d'intimité, de relation. Et Dieu a alors été enfermé comme un Dieu qui donne droit ou qui ne donne pas droit. Mais il n'est plus un Dieu qui aime. Il n'est plus un Dieu qui tend la main. Il n'est plus un Dieu qui invite. Il n'est plus un Dieu qui pardonne. Mais seulement un Dieu qui sanctionne. T'as le droit, t'as pas le droit. Et ici, ils ont vidé le sabbat de Dieu. Et on a une certaine tension ici, n'est-ce pas ? Parce que dans l'Ancien Testament, quand on lit ces récits, on voit que bien souvent le peuple juif a rejeté le sabbat, en fait a méprisé le sabbat en travaillant. Et les pharisiens ont voulu faire quelque chose, les premiers pharisiens ont voulu faire quelque chose de bien. Ils ont vu, on ne doit pas retourner comme ça s'est fait avant et ce qui nous a conduit à l'exil. Donc pour garder le peuple de refaire n'importe quoi, pour aider le peuple à rechercher Dieu, on va mettre certaines règles. Mais malheureusement, avec le temps, les règles sont demeurées. Mais le but de ces règles sont partis. Dieu a été complètement vidé de la présence du sabbat. Une question. Pour vous qui êtes marié ou pour vous qui aimez sortir avec vos amis, pourquoi vous aimez sortir avec votre femme? Pourquoi vous aimez sortir avec vos amis? Est-ce que c'est juste le plaisir d'aller au restaurant? Est-ce que c'est juste le plaisir d'aller manger? Est-ce que c'est juste le plaisir de faire quelque chose? Ou c'est le plaisir d'être avec la personne? C'est quoi le but? En fait, le restaurant, on s'en fiche en général, quoi. J'espère, hein, pour vous, mesdames, que votre mari s'en fiche. Ah, mes enfants disent non, eux, ils veulent manger. Mais le but de toutes ces sorties, c'est la relation, n'est-ce pas? Le but de ces sorties avec nos amis, c'est la relation. Et à cause de cela, on est prêt à donner quelque chose, à payer quelque chose, parce qu'on veut construire une relation. Et c'est la même chose ici. Dieu nous donne des occasions de le rencontrer. Dieu nous donne des occasions d'expérimenter sa présence, de vivre sa présence. Et le jeûne est une occasion. La prière est une occasion. Le sabbat est une occasion. Mais quand cela a été mis en avant comme étant le but, alors Dieu a été enlevé. Comme quand le but de sortie est de manger juste des moules plutôt que d'être avec notre femme. Alors l'amour, la relation a été perdue au profit des moules. Je vous donne une autre illustration. Ouais, Claire m'a demandé de l'inviter à manger des moules dernièrement, c'est pour ça. Claire, pardon. En parlant dernièrement avec un pasteur, il m'a décrit de manière intéressante comment ils font leur culte. Et voilà, le culte, c'est d'abord 30 minutes de louange et 20 minutes de prédication. Et il y a vraiment toute une réflexion qui est vraiment intéressante. Mais là, il y a une chose qui m'a fait tiquer. C'est quand il m'a dit, voilà, on veut avoir 30 minutes vraiment d'une belle louange de qualité, et on met tous les moyens pour vivre une qualité, parce que c'est une louange qui fait venir la présence de Dieu. Et là, moi, je commence à tiquer. C'est quoi le problème? Est-ce qu'avec la louange, on fait venir la présence de Dieu? C'est vraiment ça le but de la louange? C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure? C'est pour faire venir la présence de Dieu? Est-ce que c'est parce qu'on bouge un peu comme ça qu'on sent que Dieu est là? C'est quoi le but de la louange? L'adoration, mais l'adoration du Dieu qui est là! Et pas du Dieu qu'on doit faire venir. Et malheureusement, parfois, en fait, on utilise des rites que Dieu nous donne pour manipuler Dieu. On utilise des bonnes choses que Dieu nous donne, mais pour notre profit à nous, pour notre plaisir à nous, et plus pour adorer Dieu. Et d'où le sens de ce qui nous a été apporté ce matin. Le but de tout ce qui a été dit, c'est pas ce qu'on a fait, mais c'est de célébrer le Dieu qui est là et de le laisser nous challenger face à nos défis, considérer les intérêts des autres, nous accueillir, nous aimer. On glisse facilement de notre relation encore aujourd'hui à Dieu, à ce qu'on aime pour se faire mousser soi-même, parce qu'on aime ce qu'on fait, plutôt que d'aimer le Dieu qui est là. Quatrième observation, c'est que face à cette tension qui monte, face à ces pharisiens alors qui sont remplis de fureur, qui veulent se débarrasser de Jésus-Christ, Jésus fait ici un choix drastique. Verset 11, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Luc insiste ici sur le fait que Jésus a prié. Deux fois, il nous parle de la notion de prière, et ce n'est pas qu'une petite prière, n'est-ce pas? Il passa toute la nuit dans la prière. C'est la seule fois où Luc nous dit que face à un événement qui va se passer, Jésus passe toute la nuit. Même avant sa crucifixion, il n'est pas mentionné cela. Mais toute la nuit, pourquoi toute la nuit? C'est qu'il va prendre un pas ici qui est dur, un pas qui est extrêmement important, un pas qui n'est pas évident. Et il a besoin de cette intimité, de cette conduite, de la douceur et d'être rassuré par Dieu. Et voilà ce pas. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12. Pourquoi 12? Parce que c'est joli comme chiffre. Parce qu'il établit un nouveau peuple. 12 disciples comme les 12 patriarches. 12 disciples comme les 12 tribus d'Israël. Face à l'opposition, parce qu'on le rejette constamment, Jésus établit un nouveau peuple. Et à ces 12 nouveaux patriarches, comment il les appelle ? Des apôtres. Des apôtres, terme qu'on trouve normalement plus loin, mais Luc est le seul à l'utiliser ici pour tout de suite nous parler des disciples. Ces apôtres, c'est-à-dire les envoyés. Ceux que Jésus va envoyer. Pour faire quoi ? Pour aller à la suite de sa mission. Et on revient au chapitre 4 ici, à ce début du ministère public de Jésus-Christ, quand il a ouvert le livre du prophète Ésaïe, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Face à ce peuple qui se confie dans sa piété, face à ce peuple qui se confie dans sa religiosité et en vidant Dieu de tout cela, Jésus-Christ rétablit un nouveau peuple. Le peuple qui va être marqué par la grâce. Le peuple qui va proclamer la grâce. Le peuple qui va annoncer la grâce. Ce n'est pas parce que tu fais que Dieu t'aime, mais c'est parce que Dieu est venu à toi. Il est venu te proclamer la grâce, parce que Dieu est venu accorder le pardon qu'il t'invite dans sa présence. Dieu, Jésus-Christ, est venu pour nous inviter à une relation vivante, qui ne se base pas sur nos mérites, mais sur l'amour, et pas sur notre amour, mais sur l'amour que lui y donne. Et comme un être aimé répond à l'amour quand il se sait aimé, c'est l'invitation que Dieu nous lance à chacun d'entre nous. Je t'aime. Quelle réponse tu me donnes ? Je t'aime. Maman est tendue vers toi. Quelle réponse ? La réponse n'est pas le sabbat. La réponse, ce n'est pas le jeûne. La réponse, ce n'est pas la prière. La réponse, je t'aime. Quelle est ta réponse ? Aime-moi. Aime-moi. Et au final, c'est comme dans tout couple, n'est-ce pas ? Pourquoi on ne va pas voir les autres, nous les gars, on ne va pas voir les autres filles quand on est mariés ? Ou pourquoi, vous, les femmes, vous n'allez pas voir d'autres gars quand vous êtes mariés ? J'ai regardé un film cette semaine, Borderline, qui nous parle en fait de ce qui s'est passé en France. Un commissaire a été arrêté pour, parce que dans sa manière de pourchasser les mauvais, le grand banditisme, et c'est une histoire vraie, il a flirté avec la question de la prostitution, avec le trafic de drogue, la violence, etc. Et il a été mis en prison. C'est le commissaire Nérès, si ça vous intéresse. Vous pourrez regarder ça sur Internet. Mais ce que je trouvais intéressant à un moment donné, c'est qu'il est arrêté avec sa femme. Et il y a une autre femme qui arrive, et il y a le policier qui dit « Ah ben, c'est qui celle-là ?» Et quelqu'un d'autre lui répond « Ça, c'est la maîtresse du commissaire. » Là, tout d'un coup, toutes les têtes sont déconfites. La femme, elle a ramassé la petite cuillère, et lui, il est pris de honte. Et de manière naturelle, tout le monde reconnaît que quand on est marié, normalement, on ne doit pas avoir de maîtresse. C'est mal. La femme est blessée, le gars a honte. Et il reconnaît implicitement et va même demander pardon à sa femme. Ça ne va pas, ça ne doit pas se faire. Quand on aime quelqu'un, il y a des choses naturellement qu'on fait. Naturellement, on l'aime. Et donc, naturellement, on prend soin. Naturellement, on va à sa rencontre. Naturellement, on saisit les occasions de vivre avec. Donc, ce n'est pas que l'amour de Dieu, l'amour, la relation vivante que Jésus-Christ nous offre, veut dire on se débarrasse de toutes les occasions qu'il nous donne de nous rencontrer. Au contraire, quand on aime quelqu'un, on saisit toutes les occasions de le rencontrer, n'est-ce pas ? Rappelez-vous, avant de vous marier, ce que vous faisiez, n'est-ce pas ? Peut-être maintenant, ça a un petit peu changé, mais le peu de temps qu'on passait à dormir, parce que l'objectif, c'était d'aller la voir, n'est-ce pas ? C'était ça l'objectif, c'est ça la priorité. Et Dieu nous offre encore les cultes aujourd'hui,
Dieu nous offre l'Église aujourd'hui. Dieu nous offre sa parole aujourd'hui. Dieu nous invite à prier aujourd'hui. Et plusieurs autres choses, non pas pour nous contraindre et nous inviter dans un système où on va le mériter au travers de cela, mais tout un ensemble de choses qu'il nous offre pour le rencontrer, pour vivre cette vie intime, vivante avec lui. Jésus vient nous délivrer de notre religiosité. Et il vient pour nous conduire dans une relation vivante avec lui. Et le texte ici nous dit que ça entraîne de l'opposition. La grâce et le mérite ne se supportent pas. La grâce et le mérite s'excluent. L'Évangile entraîne de la division. Non parce qu'il aime diviser, mais parce que des personnes ne le veulent pas. Parce que des personnes disent, c'est parce que moi je vais faire et je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Jésus nous délivre de notre religiosité et nous conduit ou pour nous conduire dans une relation vivante. Voilà, jusqu'ici, moi j'ai travaillé. Maintenant, à vous de travailler. Quelles sont les applications qu'on peut tirer de cela, de cette vérité que ce texte nous apporte? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de cela pour nous aujourd'hui? Vous n'êtes pas venu pour dormir, hein? Ouais. Par exemple, la routine du culte. Ouais. Mais c'est pas la routine qui doit être changée, hein. C'est mon attitude face à la routine. Moi, tous les matins, je me lève et je dis bonjour à Claire, hein. Mauvaise habitude, mauvaise routine. Non, le problème n'est pas la routine. C'est mon attitude face à la routine. C'est mon attitude là, quand j'ai pris la scène. Est-ce que je l'ai fait par habitude? Sans réfléchir à ce que ça veut dire. C'est le matin quand je me lève pour aller au culte. Allez, c'est dimanche, on ne se pose pas de questions, on y va. Ou c'est mon attitude qui a été changée. Dieu m'invite à me réunir avec son peuple. Et ça, c'est important. Parce que c'est le moyen que Dieu m'a donné pour me faire grandir. C'est le moyen que Dieu m'a donné pour me dire, Philippe, regarde toutes les personnes que tu n'aimes pas encore. Regarde ce qui doit encore changer dans ta vie. C'est le moyen que Dieu utilise, n'est-ce pas? C'est là que ça doit changer. Quoi d'autre? Autre application? La relation avec qui? Ouais. Vous avez remarqué dans votre texte ce que ça a entraîné, la religiosité? Les pharisiens méprisent les pécheurs et les péagers. Les pharisiens excluent Jésus-Christ et ses disciples. La religiosité sépare. La religiosité sépare. Et elle peut même nous séparer dans l'Église, n'est-ce pas? Moi, je viens au groupe de maison tous les dimanches. Non, pas tous les dimanches, toutes les semaines. Je prie à toutes les réunions de prière, je suis là. Et toi? Pas toi. Et là, c'est moi qui suis mis en avant. Et plus la grâce que Dieu m'offre, ou c'est lui qui m'invite. Et pour mon frère qui n'est pas venu, la question n'est pas qu'il est venu ou pas, peut-être qu'il avait d'autres choses. Et ça ne veut pas dire qu'il ne prie pas, peut-être qu'il prie à beaucoup d'autres moments, plus que moi d'ailleurs. Mais ce qui nous réunit, c'est cette grâce. Et cette grâce qui l'invite à prier parfois seul, et cette grâce qui m'invite à prier là. Mais ce n'est pas parce que je prie que je suis meilleur. Pas de jugement de valeur. La religiosité nous sépare. Elle sépare de Dieu, mais elle sépare les hommes entre eux également, alors que la grâce réunit. Même si franchement, on ne chante pas comme les autres aimeraient. Et on se sépare là-dessus, n'est-ce pas, encore une fois? Ou sur la manière de prier, sur la manière de chanter, sur les cantiques qu'on chante, est-ce qu'on chante à toi la gloire, sur les ailes de la foi, sur j'aime ou sur autre chose? La religiosité sépare. Et on doit le reconnaître, éveiller, et demander pardon, et revenir à la scène qui nous unit. Et se rappeler, considérer les intérêts des autres. Je vais chanter des bons vieux à toi la gloire, parce que les textes sont bons, et parce que ça encourage les personnes âgées dans mon église. Et je vais chanter des bons j'aime qui sont un petit peu trop rythmés, que parfois j'ai un peu du mal à suivre, mais parce que ça encourage mes jeunes. Et je vais les encourager à avoir des bonnes paroles aussi d'ailleurs. La religiosité sépare, la grâce réunit. J'aimerais te proposer juste encore deux applications pour toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, qui n'a pas encore pris de décision pour lui, qui n'est pas encore dans cette relation vivante, qui ne l'aime pas encore. Sache que la religiosité, toutes les pratiques que tu peux faire, même ces pratiques d'être là, les pratiques de chanter, de lire la Bible, sont une montagne infranchissable. Et jamais tu n'arriveras à la franchir. Parce que, par définition, tu n'en feras jamais assez. Elle est infranchissable. Mais Jésus-Christ vient ici nous offrir la grâce. C'est lui qui a franchi cette montagne pour nous. C'est lui qui a franchi cette montagne pour toi. Et il vient t'inviter encore aujourd'hui à accepter qu'il a tout accompli pour toi. Il a franchi cette montagne infranchissable et il t'invite simplement à la recevoir par la foi. Une deuxième implication que j'aimerais vous proposer, c'est que la grâce, comme nous dit ce texte, entraîne une fracture. Il va falloir assumer cette fracture. Pas l'adoucir, pas la renier. Parce que le pire qu'on puisse faire, c'est de chercher à adoucir ses contours pour qu'elle ne gêne personne. Mais Jésus a pleinement assumé cette fracture. Il a accepté l'opposition contre lui. Pourquoi ? Parce que c'est en laissant l'Évangile nous piquer, c'est en laissant l'Évangile déranger qu'il a sauvé les personnes. Et si on cherche trop à adoucir les contours, alors il n'y a plus de bonnes nouvelles. Il n'y a plus d'année de grâce qui est proclamée. Et on doit accepter cela. On doit assumer cela. Et demander à Dieu la grâce de nous apprendre à le vivre. Et premièrement pour nous, le laisser continuer à nous transformer, mais aussi pour que son évangile soit rendu visible en nous. Je vous invite à prier.